Les débuts de l'intelligence, première partie, chapitre 2, 4. Les caractères des actes suspensifs. Nous pouvons peut-être préciser un peu plus les caractères d'un acte perceptif ainsi constitué. Sans doute, on retrouve dans ces conduites la régularité et le déterminisme qui caractérisent l'acte réflexe. L'action est stéréotypée car l'animal poursuit une proie, construit son terrier, toujours de la même manière. Cette action peut être assez longue. Un animal carnassier poursuit une proie pendant plusieurs heures. Un oiseau met plusieurs jours à faire son nid. Il s'agit là d'une série de mouvements bien plus complexes que ceux de la mélodie kinétique des actes réflexes. Mais la suite des mouvements reste toujours la même. Cette série de mouvements déclenchés régulièrement par telle ou telle stimulation déterminée est plus souvent peu variable. C'est même ce rigoureux déterminisme de l'acte instinctif qui est le point de départ des trompe-l'œil, de toutes les erreurs que l'on peut déterminer dans les actes instinctifs ou modifiant les stimulations de l'action. Il n'en est pas moins vrai qu'il y a dans ces conduites perceptives des éléments de variabilité et presque de liberté beaucoup plus grandes que dans les réflexes. Ces conduites sont plus longues et pendant qu'elles s'accomplissent, l'animal peut recevoir d'autres stimulations qui changent l'action en cours. Tandis que le réflexe dépend d'une seule stimulation, l'acte perceptif en comporte au moins deux. La première, au début, qui est en quelque sorte préparante, car elle éveille et prépare l'acte schématique, le lance en quelque sorte dans une direction. La seconde, déchaînante, car elle détermine le passage à la consommation finale. L'odeur du lapin a déclenché l'acte de la poursuite, et déjà le schéma total de manger le lapin, mais il faut le contact de la peau sur les lèvres, pour amener la consommation de cet acte de manger le lapin. D'autres stimulations peuvent jouer un rôle dans l'intervalle entre celles-ci et peuvent modifier plus ou moins l'activation du schéma. L'odeur du lapin a déclenché l'acte de la poursuite, mais la vue d'un côté ou de l'autre change à chaque instant la direction de la poursuite. Ici intervient le rôle de l'obstacle, qui peut faire naître d'autres actes schématiques qui inhibent plus ou moins le premier. C'est le point de départ de l'acte intellectuel du détour, dont nous aurons bientôt à nous occuper. Nous voyons bien ces complications dans des actes que nous avons autrefois étudiés longuement et que nous appelions les conduites perceptives de situation. Supposons qu'un renard veuille attraper une poule. Il la surveille, veut se jeter sur elle. Perception simple. Mais en même temps, il voit le gardien du poulailler avec une fourche à la main qui le menace. Il y a là une stimulation qui joue le rôle d'obstacle. Cette stimulation le dirige vers un sens opposé, vers la fuite. Il y a conflit entre les deux tendances, la poursuite de la poule et la fuite devant la fourche. Ce conflit se résout d'une façon ou de l'autre et, après un arrêt momentané, le renard peut revenir à la poule. Sans doute, je ne crois pas qu'il s'agisse tout de suite d'une conduite intellectuelle dans laquelle il y a régulièrement invention d'une conduite intermédiaire et nouvelle, avec recherche de cette conduite. La combinaison des deux conduites est encore plus ou moins mécanique et consiste surtout en oscillations. Mais il n'en est pas moins vrai que ces conduites de situation vont devenir le point de départ des conduites intellectuelles. Enfin, il y a un caractère des actes perceptifs qui prend à nos yeux une grande importance. Le réflexe nous a paru un acte explosif, régi par la loi du tout ou rien. Une stimulation suffisait pour faire éclater toute la conduite réflexe dans de bonnes ou dans de mauvaises conditions. La nature essentielle de l'acte perceptif, qui réclame deux ou plusieurs stimulations, les unes préparantes, les autres déchaînantes, supprime ce caractère explosif. La première stimulation ne suffit pas à elle seule pour amener la consommation de l'acte. Il faut une seconde stimulation déchaînante. Le carnassier qui poursuit une proie ne se met pas à mordre et à avaler dès que l'acte de manger du lapin est éveillé par l'odeur. Il mordrait dans le vide et il n'arriverait à rien. Il ne fait des actes de ce genre que s'il y a des erreurs dues à un trompe-l'œil. Le plus souvent, il est obligé de suspendre l'acte schématique qui a été éveillé par la première stimulation. Il ne l'abandonne pas complètement, car alors il oublierait la chasse et n'aurait plus l'attitude nécessaire à la capture de telle ou telle proie. Il ne laisse pas la tendance à cet acte schématique retomber dans la latence. Comme il n'arrive pas non plus à la consommation, il doit maintenir l'activation de la tendance dans une disposition spéciale intermédiaire entre la phase de la latence et la phase de la consommation. C'est ce que, dans notre cours d'une année spécialement consacrée à l'étude des phases de l'activation, nous avons appelé la phase de l'érection. Dans cette phase, la tendance éveillée, tirée de la latence, n'arrive pas à la consommation, mais reste cependant assez active pour diriger la conduite dans un certain sens et pour lui donner un aspect caractéristique de la tendance elle-même. Cette apparition de la phase de l'érection, ajoutée aux deux phases de la latence et de la consommation, qui existaient seules au stade du réflexe, me semble avoir une grande importance. Ce sera plus tard le point de départ de beaucoup de conduites intellectuelles, puis de la réflexion et de la mémoire. La phase de l'érection dans l'activation d'une tendance donne lieu à une manière bizarre d'agir. Dans cette phase, l'acte existe d'une certaine manière, au point d'être nettement reconnaissable, et d'autre part, il n'existe pas complètement puisqu'il ne détermine pas les mouvements extérieurs caractéristiques. Cet état d'érection d'une tendance va jouer plus tard un rôle considérable dans la pensée, qu'il serait bien difficile de comprendre si on ne connaissait pas cette forme particulière que peuvent prendre les actions. Pour le moment, cette phase de l'érection intervient dans certains actes instinctifs comme dans l'acte de faire le guet, de guetter une proie. Un animal, dont la vue ou l'odorat ont reçu une première stimulation amenant l'acte schématique de manger une proie déterminée, ne se met pas immédiatement à manger, ni même à courir. Il reste souvent couché par terre, immobile sur le passage de cette proie. C'est là une conduite bien remarquable, car il est souvent important de se retenir d'agir et, comme on le dit vulgairement, il est bon de tenir son fusil chargé. La conduite n'est plus immédiatement explosive, c'est une bombe à retardement qui a été préparée par une première stimulation et qui n'éclatera qu'à une seconde stimulation provoquée par l'apparition de la proie à bonne portée. Mais cet intervalle entre les deux stimulations est rempli par un acte particulier, celui de l'attente, qui est la transformation spéciale de la phase de l'érection. Nous ne pouvons étudier ici complètement l'attente, sur laquelle nous avons longuement insisté dans le cours sur la mémoire publié en 1928. L'animal qui fait le guet n'a pas encore la mémoire proprement dite, mais il commence à savoir attendre, à faire des actions retardées qui sont, comme nous l'avons vu, le principe de la mémoire. Quand nous attendons la visite d'un ami, nous n'avons pas immédiatement la conduite qui consiste à recevoir cet ami et à lui parler, sauf quand il y a des erreurs et des précipitations dans la conduite difficile de l'attente. Mais nous ne sommes pas tout à fait inactifs et nous ne laissons pas complètement dans la phase de la latence cette conduite de la réception de tel ami. nous interrompons d'autres occupations, nous prenons une attitude spéciale. Nous conservons les actes de la réception d'une manière particulière et nous faisons cet acte spécial de l'attente qui est encore une forme de l'érection. L'attente se complique par la recherche. Cet acte de la recherche suppose que vous savez ce que vous cherchez, c'est-à-dire que vous avez déjà en érection la conduite que vous désirez avoir vis-à-vis de l'objet cherché. Mais cependant, vous ne faites pas cette action complètement, puisque vous n'avez pas l'objet sous la main. Vous ne vous habillez pas complètement si vous cherchez un de vos vêtements. Cet acte vis-à-vis de l'objet cherché est encore maintenu à la phase de l'érection comme dans une espèce d'attente. Mais vous ne restez pas immobile comme dans la véritable attente. Vous n'attendez pas que ce vêtement apparaisse tout seul devant vous. Il faut que, tout en maintenant l'acte en érection pour ne pas oublier ce que vous cherchez, vous fassiez autre chose. Une sorte d'agitation intervient pour favoriser l'apparition de l'objet cherché. La recherche est une complication de l'attente par des mouvements plus ou moins habiles pour favoriser l'apparition de l'objet qui permettra de consommer l'acte maintenu en érection. On voit, par ces quelques exemples, combien la phase de l'érection, caractéristique des tendances perceptives, joue un grand rôle dans les actes instinctifs comme dans les actes plus élevés. C'est pour mettre en évidence l'importance de l'érection dans les actes perceptifs que nous avons souvent désigné ces actes perceptifs par le nom de « tendances suspensives ». Il s'agit en effet de tendances qui peuvent s'arrêter à différents moments de leur activation et qui peuvent rester quelque temps, en quelque sorte, suspendues sans aboutir immédiatement à la consommation complète. C'est cette forme de l'action arrêtée à la phase de l'érection qui donne à nos perceptions leur aspect le plus commun. Quand nous percevons un objet, un fauteuil par exemple, nous disons qu'en le voyant, nous savons ce qu'est cet objet, que nous le reconnaissons, mais nous croyons ne pas faire d'action à ce moment, car nous restons debout, immobiles, en percevant le fauteuil. Il y a là une illusion. En réalité, nous avons déjà en nous l'acte caractéristique du fauteuil, ce que nous avons appelé le schéma perceptif, ici l'acte de nous asseoir d'une manière particulière dans ce fauteuil. Toutes les études sur l'agnosie montrent bien que ce symptôme est toujours associé avec quelque forme de l'apraxie. Le malade qui ne sait plus du tout s'asseoir dans le fauteuil ne reconnaît pas l'objet pour un fauteuil. C'est parce qu'il n'a pas en lui l'éveil de l'acte caractéristique du fauteuil qu'il ne le reconnaît pas. Pour que ce fauteuil soit un fauteuil et non un livre, il faut qu'un détail de l'objet éveille la tendance à s'asseoir d'une façon particulière. Mais ce qui est remarquable, c'est que cet acte ainsi éveillé ne s'active pas complètement et qu'en fait nous ne faisons pas l'acte de nous asseoir. De même que nous ne mangeons pas immédiatement tous les objets que nous percevons cependant comme comestibles. L'acte caractéristique, l'acte schématique de cet objet reste à cette phase particulière que nous venons d'appeler la phase de l'érection. Ce sont ces schémas perceptifs éveillés à la phase de l'érection qui constituent, au point de vue psychologique, ce que nous appelons les objets. C'est notre acte, disait M. Bergson, qui découpe dans la continuité du monde les objets que nous utilisons. Le schéma perceptif éveillé et maintenu à la phase de l'érection contient d'abord les actes caractéristiques de l'objet. S'asseoir dans un fauteuil, boire dans un verre, manger avec une cuillère. Mais il est modifié à chaque instant par des caractères variables des stimulations qui nous parviennent. Au mouvement caractéristique de l'usage se joignent des mouvements de déplacement du corps nécessaires pour atteindre l'objet, c'est-à-dire pour pouvoir porter à la consommation le schéma perceptif. Ces déplacements sont variables dans leur grandeur et dans leur direction. Ils ne font pas partie essentielle de la conduite de l'objet lui-même. Ils viennent seulement la modifier. Ils ajoutent aux caractères fondamentaux de l'objet un détail important, sa distance. Ces mouvements accessoires de déplacement ne sont pas les mêmes pour tous les objets. Si je veux toucher cette lampe, je dois faire un mouvement à gauche. Si je veux prendre ce morceau de craie, je dois faire un mouvement à droite. Ne cherchons pas pour le moment la signification de ces mots « droite »,« gauche ». Constatons seulement que ce sont des mouvements différents qui contribuent à séparer les objets les uns des autres. Parmi les objets qui sont ainsi séparés les uns des autres, il y en a un qui joue un rôle essentiel. C'est l'objet que nous appelons notre corps, le corps propre. Celui-ci, à bien des points de vue, ressemble aux autres objets, mais il a aussi des caractères distinctifs très importants. Notre propre corps est déterminé comme les autres par nos conduites perceptives. Nous avons vis-à-vis de lui des conduites particulières qui ne sont pas les mêmes vis-à-vis des autres. On remarquait autrefois que nous avons une sensation tactile double. Mais nous avons vis-à-vis de notre corps des conduites beaucoup plus simples. La première de toutes, c'est que nous ne le mangeons pas, nous ne le blessons pas, nous avons des égards pour lui. Il y a là un ensemble de conduites conservatrices qui ne sont pas les mêmes que pour le corps des autres. Si nous considérons les conduites de déplacement qui séparent les objets, nous remarquons qu'il nous faut un déplacement pour tous les autres objets, mais que seul le corps propre fait exception. C'est le seul objet que nous puissions toujours atteindre sans avoir à effectuer un déplacement. Cet objet particulier, le corps propre, nous sert de point de départ, de point de repère, pour apprécier la distance de tous les autres objets. J'emploie ici ces mots « point de départ »,« point de repère » qui se rattachent à des conduites intellectuelles que nous devons étudier prochainement, parce que, comme je l'ai dit bien souvent, l'observateur des faits psychologiques possède lui-même les actes supérieurs qu'il ne doit pas forcément retrouver chez les sujets, et il doit s'en servir dans son interprétation scientifique sans les attribuer au sujet. C'est là une des difficultés de ce genre d'observation. Nous y avons déjà insisté à propos de nos leçons sur la mémoire. Le corps propre paraît séparé de tous les autres objets qui prennent alors un caractère nouveau, qui deviennent non seulement distants les uns des autres, mais des objets extérieurs. Sans doute, cette extériorité des objets va jouer un rôle considérable dans notre vie psychologique, quand elle s'opposera à l'intériorité des phénomènes de conscience après l'évolution des actes secrets, de la pensée intérieure, transformée par des conditions sociales. Il n'est pas encore question de cette extériorité absolue. Il suffit maintenant que les objets paraissent tous distants du corps propre qui a pris une importance particulière. Ce caractère de la perception est si net que dans les délires, les phénomènes psychologiques qui semblent analogues à des perceptions prennent surtout l'apparence de l'extériorité. Nous l'avons déjà remarqué souvent à propos des délires de persécution. Nous ne pouvons aujourd'hui, dans ce résumé rapide, étudier la longue évolution qui a peu à peu transformé un grand nombre d'actes réflexes ou conduites perceptives. Rappelons seulement que bien des conduites intermédiaires pourraient être constatées dans cette transformation. Les réflexes lointains dont parle M. Sherrington déterminent des réactions à des objets écartés du corps, des mouvements de déplacement de tout le corps antérieurs aux actes de consommation. Les réflexes conditionnels de M. Pavlov sont déjà presque complètement des schémas perceptifs. La stimulation devenue efficace donne naissance à une réaction complexe qui dépendait primitivement d'un autre réflexe. Il y a déjà une association, une combinaison de plusieurs actions réflexes réunies par une conduite schématique. Il a fallu une longue évolution pour rendre ces transformations plus complètes, et tous les instincts ont un long passé. Il me semble peu probable que des réflexes conditionnels de ce genre aient été créés uniquement par des successions régulièrement fortuites de stimulation. Il faudrait un bien grand hasard pour remplacer l'action intelligente de l'expérimentateur qui aujourd'hui crée dans le laboratoire de tels réflexes. Il y a eu des mutations, des inventions qui ont perfectionné les réflexes comme les corps et qui ont créé ces caractères nouveaux de l'action, le schéma perceptif et la phase de l'érection. M. Bergson sépare complètement l'intelligence de l'instinct et nous verrons en effet des différences importantes. Mais cette séparation ne doit pas être exagérée. Nous savons d'ailleurs que ces actes de divers degrés peuvent se mêler. Nous venons de remarquer que par l'effet de l'habitude, des actes supérieurs peuvent arriver à présenter des caractères du réflexe. Il est facile de voir de même que des actes qui ont pris la forme supérieure au début nous apparaissent ensuite comme des instincts.